Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez en cette mi-journée, bon appétit, il est midi et demi, heure d'été.
Europe 1 midi week-end.
Lénaïque Monnier.
Et c'est une nouvelle semaine qui s'ouvre sous fond de réforme des retraites, de contestation de réforme des retraites. Les syndicats espèrent marquer le coup mardi, malgré un dispositif de sécurité d'ores et déjà annoncé comme costaud par le préfet Laurent Nunez. Rémi Bourguignon est professeur à Paris-Est Créteil. Il est directeur scientifique de la chaire Transformation et Régulation de la Relation de Travail. Il est l'invité d'Europe 1 midi week-end. Allons-nous par conséquent également vers une nouvelle pénurie de carburant. Europe 1 fait le point alors qu'environ 15% des stations-service étaient en rupture d'au moins un carburant dès vendredi. En Guyane, un gendarme du GIGN a tué par balle lors d'une opération contre l'orpaillage illégal. Un fléau, source de pollution et de violence dans ce territoire ultramarin. Dormir sous la tente, se reconnecter à la nature, le scoutisme séduit de plus en plus. Le groupe des éclaireurs et des éclaireuses de France a vu ses effectifs doubler en 2 ans. On part en balade avec eux. Et puis notre page sport, le tournoi à destination débute aujourd'hui. Non, nous n'avons pas une semaine de retard. Nous vous parlons simplement du tournoi féminin où les Françaises espèrent bien briller. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, une tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, Lénaïque, une France qui reste pluvieuse entre les Pyrénées et les Ardennes. Orageuse à partir de maintenant entre la Nouvelle-Aquitaine et les plateaux lorrains. Et gros coup de vent qui se renforce encore cet après-midi jusqu'à demain matin.
Et météo complète juste avant 13h. La réforme des retraites ne signe pas la retraite des réformes. Olivier Véran brandit la détermination de l'exécutif dans les colonnes du journal du dimanche ce matin. Mais la détermination est aussi intacte du côté des syndicats. J'en parle dans un instant avec l'invité d'Europe 1 midi week-end, le professeur des universités Rémi Bourguignon. Les syndicats qui appellent donc à une nouvelle grande journée d'action mardi dans les transports, l'éducation nationale, mais aussi les raffineries. Alors est-ce qu'il faut être prévoyant cette semaine côté carburant? Bonjour Geoffrey Branger.
Bonjour.
Avec vous ce midi, on va parler de ces pénuries. Les approvisionnements sont de plus en plus rares avec les grèves des transporteurs et dans les raffineries. Concrètement, à cette heure-ci, où est-ce qu'on en est?
Eh bien, d'après les premières remontées de terrain, environ une station sur cinq serait en manque d'au moins un carburant. Certaines régions sont particulièrement touchées. La Normandie, la Bretagne, l'Occitanie, le Centre-Val de Loire ou encore la région PACA. En Ile-de-France aussi, la situation commence à se tendre. Écoutez, Jérôme, il est le gérant d'une station-service à Paris.
On a été livré hier, mais on a déjà plus de 95 et de 98. Ça part très vite. Pour l'instant, on a encore du diesel, mais c'est probable que dans 2-3 jours, il n'y en ait plus. Ouais.
Et les Parisiens ont donc de plus en plus de mal à faire leur plein.
C'est pas normal. Toujours on galère pour trouver un essence.
C'est dur à trouver en ce moment. On se retrouve à faire la queue souvent à la station essence et à tourner pour trouver des stations qui ont notre essence. Donc ouais, c'est fatigant et c'est inquiétant surtout.
Que des pénuries chez Total. Et j'espère qu'il y aura des réquisitions assez rapides dans les raffineries. Le carburant, c'est trop essentiel en fait.
Un contexte qui ne laisse rien présager de bon pour les semaines qui arrivent, d'autant que les grèves et les blocages auront encore d'importantes conséquences. Benjamin Hamar, porte-parole de la CGT du Val-de-Marne.
Le gouvernement, quand il dit que tout va bien aller, eh bien évidemment, surtout que ceux qui nous écoutent ne le croient pas et aillent faire le plein. On voit bien d'ailleurs l'évolution ces derniers jours. Il y a de plus en plus de stations qui n'ont plus d'essence. On ne veut pas de cette réforme. Voilà. Donc, si on veut continuer à paralyser le pays pendant des mois, on continue, mais nous, on ne lâchera pas.
Pour rappel, en novembre dernier, au pic de la pénurie, plus de 30% des stations-service étaient en rupture totale ou partielle de carburant.
Merci à Geoffrey Branger. On l'a compris, les blocages qui se poursuivent donc et cette nouvelle journée de mobilisation qui arrive après-demain. Les autorités craignent la présence des black blocs, des casseurs dans les cortèges à Paris notamment, où un dispositif annoncé costaud a d'ores et déjà été prévu par le préfet Laurent Nunez. Mais les syndicats, toujours très remontés après le 49-3, ne compte pas se faire voler ce moment. Bonjour Alexandra Gégy.
Bonjour.
Le mot d'ordre est le même pour tous les représentants syndicaux. Ne pas lâcher maintenant.
Oui, c'est la 10e journée d'action mardi après une mobilisation record dans plusieurs villes de France jeudi dernier. De quoi encourager les syndicats pour la suite, estime Boris Plazzi, secrétaire confédéral de la CGT.
Depuis le mois de janvier, le nombre de manifestants et le nombre de personnes en grève ne cesse d'augmenter. Il n'y a pas d'essoufflement, il y a plutôt un renforcement à chaque fois. Donc voilà, encore une grosse journée d'action à l'appel d'une intersyndicale qui reste soudée.
Les syndicats qui disent se sentir soutenus par la population. Les caisses de grève enregistrent des dons records. Celles de la CGT cumulent plus de 2,5 millions d'euros de dons depuis le début du mouvement et près de 300 contributions par jour.
C'est une très bonne nouvelle parce que depuis maintenant le mois de janvier, ce sont une dizaine de jours de mobilisation, de manifestation, donc de grève et donc de perte de salaire. Certains salariés en sont à 2 semaines sans salaire, donc c'est très très difficile.
La CGT appelle également les Français à se mettre en grève mardi et selon le syndicat, la mobilisation devrait être sensiblement identique à jeudi dernier.
Merci Alexandra Gégy et j'accueille à présent Rémi Bourguignon. Bonjour.
Bonjour.
Un professeur à Paris-Est Créteil, vous dirigez la chaire Transformation et régulation de la relation de travail. On sent, on vient de l'entendre, des syndicats très déterminés. Vous ne voyez aucun essoufflement du mouvement dans les prochains jours, les prochaines semaines ?
Non, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'essoufflement à ce stade. Les syndicats ont mobilisé, la mobilisation n'a fait que croître. Et puis, il n'y a pas de réponse en face qui paraît, en tout cas aux yeux des gens qui sont mobilisés démocratiquement acceptable. Et donc, c'est perçu, cet entêtement du pouvoir actuel, comme une forme de provocation, comme une forme d'escalade. Donc, au contraire, ça va plutôt alimenter la mobilisation. Le grand risque du côté des organisations syndicales n'est pas tellement du côté de l'essoufflement, il est plutôt du côté de l'émergence, hein, on l'a entendu dans votre reportage, d'éventuelles violences qui pourraient venir dans le rang parmi les manifestants. Mmh. Et puis un deuxième grand risque est celui de la politisation du mouvement qui là pourrait embêter certains syndicats qu'on appelle habituellement réformistes.
Alors pour l'intersyndical, c'est ce que vous nous expliquez Rémi Bourguignon, c'est de montrer et de démontrer qu'il y a d'un côté les manifestations bien réglées, bien rodées et de l'autre les casseurs, c'est éviter les amalgames en quelque sorte.
Oui, mais là, les organisations syndicales, et je crois que les Français font bien la distinction entre les deux, faudrait être quand même de mauvaise foi pour mettre en cause les organisations syndicales. On voit bien que depuis le départ, elles ont bien tenu le mouvement. Le truc, c'est que dans les jours et les semaines qui viennent, il est probable que les violences viennent s'immiscer dans les mobilisations. Et à ce moment-là, ce qu'on dira aux organisations syndicales, c'est est-ce qu'il est responsable de continuer à appeler à la mobilisation, à la manifestation, si ça peut être une opportunité pour les casseurs de venir se glisser parmi les manifestants. Donc on ne suspectera pas les organisations syndicales d'être à la manœuvre, mais elles risquent d'être accusées de faire le jeu ou en tout cas de permettre ça. Et c'est là où il va falloir être très très vigilant, et on commence à le voir d'ailleurs dans le discours à la fois des organisations syndicales et du gouvernement, qui se rejettent un petit peu la faute. Est-ce que la faute, c'est celle du gouvernement qui s'entête et qui maintient une réforme impopulaire, ou est-ce que c'est celle des organisations syndicales qui continuent à appeler à mobiliser malgré le fait que la réforme est adoptée?
Alors Rémi Bourguignon, on voit également de plus en plus de jeunes dans les cortèges, vous les côtoyez vous-même en tant qu'universitaire, c'est un signal que le gouvernement doit voir également?
Oui, il y avait déjà eu des mobilisations de jeunes au début du mouvement, mais elles sont en train de prendre de l'ampleur. On avait déjà été un peu surpris au départ en se disant « tiens, les retraites, ça ne va pas beaucoup intéresser la jeunesse, c'est très loin, ils ne vont pas se poser de questions ». D'ailleurs, on entend encore un petit peu ça dans le discours de certains politiques qui nous disent « tiens, c'est étonnant que cette jeunesse ne pense que déjà à sa retraite alors même qu'elle n'a pas commencé à travailler ». En fait, ça nous montre une jeunesse qui est quand même très très préoccupée de justice sociale, et ce qui se joue à travers cette réforme, c'est bien un signal en termes de justice et de l'avenir qu'on leur dessine. Donc c'est pas très surprenant au final, et on risque de voir cette mobilisation là aussi croître dans les semaines qui viennent.
La dernière fois qu'on s'était parlé, Rémi Bourguignon, sur Europe 1, c'était le 8 janvier dernier. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensiez que la situation allait prendre cette tournure ?
On savait que tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il y ait un blocage. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une fermeté du côté du gouvernement qui était déjà présente, et puis une ligne rouge extrêmement claire posée par toutes les organisations syndicales. Et il y a en réalité assez peu d'espace pour trouver un compromis. Donc on savait qu'on allait progressivement aller vers une situation de blocage. Là, ce qui est vraiment très surprenant, c'est que même les quelques opportunités de sortie n'ont pas été saisies, et qu'au contraire, il y a eu quand même une escalade, notamment du côté du gouvernement, qui est allé très loin avec le 49-3, après avoir expliqué qu'il ne le ferait pas et qu'il le fait finalement. Donc là, oui, on peut être surpris par le niveau d'entêtement dont il est question. Là.
Et puis il y a également l'allocution, l'interview télévisée d'Emmanuel Macron, où il dit avoir pourtant tendu la main au syndicat. On a vu un Laurent Berger extrêmement remonté dans la foulée, parlant de déni même. C'est là que la corde est véritablement brisée. Le lien est rompu.
Oui, alors On comprend d'ailleurs à travers cette allocution que le président de la République ne comprend pas très bien le monde du social. On peut quand même le croire de bonne foi, en pensant que les organisations syndicales n'ont pas fait de proposition. Mais on voit que la manière dont ce qu'ils appellent concertations ont été organisées ces derniers mois n'ont de toute façon pas permis une véritable discussion comme il aurait fallu pour pouvoir produire des solutions. Et puis surtout, il est resté sourd aux propositions des organisations syndicales. Donc effectivement, Laurent Berger était très en colère d'être mis en cause quand le président dit qu'il n'y a pas de proposition du côté des organisations syndicales, alors qu'elles gèrent des régimes de retraite depuis des années et des années, et les régimes qui sont gérés par les organisations syndicales et patronales sont bien gérés et sont à l'équilibre. Donc il est un peu dur de mettre en cause comme ça les organisations syndicales, et ça renvoie quand même à une tendance qu'on peut avoir du côté des politiques de mettre en cause les organisations syndicales, de mettre en cause leur crédibilité en disant « après tout, elles n'ont rien à proposer, donc on ne comprend pas très bien leur mobilisation ». Ça, c'est un discours contre lequel les organisations syndicales, toutes confondues, essaient de se battre depuis des années. Et quand c'est le pouvoir politique qui le tient de manière aussi ouverte, eh bien effectivement, c'est extrêmement dangereux parce que ça décrédibilise toute la démocratie sociale et ça crée des tensions pour les années à venir.
Eh bien, merci beaucoup Rémi Bourguignon d'être intervenu ce midi sur Europe 1, professeur à Paris-Est Créteil, et vous dirigez la chaire Transformation et Régulation de la Relation de Travail. Sur le volet politique du dossier, en tout cas, c'est le Rassemblement National qui est le grand gagnant de cette dernière séquence, selon un sondage IFOP pour le Journal du Dimanche ce matin. Dans l'hypothèse de législative anticipée, il obtiendrait 26% des suffrages, un bond de 7 points qui le hisserait au niveau de la NUPES qui, elle, stagnerait. Une mobilisation qui, on le sait en tout cas, a eu raison de la visite du roi Charles III. Mais voilà qu'à présent, c'est peut-être le marathon de Paris qui pourrait être annulé ou bien reporté, faute de pouvoir assurer aux quelques 45 000 inscrits un marathon en toute sécurité, car les forces de l'ordre sont à bout. Bertrand Cavalier est général de division de gendarmerie et spécialiste du maintien de l'ordre.
Il y a surtout une fatigue physique, alors qu'on leur demande une très très grande exigence en termes éthiques, déontologiques, une très grande maîtrise de soi. Là, ce sont des journées très longues, une préparation dès le matin, très tôt, c'est un conditionnement des matériels, c'est un déplacement sur place, et ces journées, à l'heure actuelle, se répètent. Il y a un rythme très élevé d'engagement. Également, cette partie de la jeunesse qui se confronte systématiquement, qui est très agressif, est vraiment très étonnant pour une partie des militaires. Depuis quelques années, on a diminué leur capacité d'action. Il y a eu des restrictions de plus en plus importantes dans l'emploi, notamment des grenades. Et aujourd'hui, ça l'illustre pleinement. Les manifestants viennent carrément au contact face à un tel niveau de violence. On a une certaine dissymétrie aujourd'hui dans les moyens d'action.
Un propos recueilli pour Europe 1 par Thibaut Hu, force de sécurité ultra sollicitée, comme à Sainte-Soline. Hier, où cette manifestation interdite contre les bassines géantes a donné lieu à de violents affrontements, où en sommes-nous le jour d'après? On voit ça avec vous, Guillaume Dominguez, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes sur place sur Europe 1, à une vingtaine de kilomètres de Sainte-Soline, évidemment. Pas de nouvelles actions prévues à cette heure, mais ce matin, les manifestants qui sont restés dans les parages sont très largement revenus à votre micro sur les événements d'hier.
Et oui, lors d'une conférence de presse, les organisateurs du mouvement ont dénoncé, selon leurs propres mots, une stratégie ultra-violente orchestrée par le gouvernement pour casser le mouvement. 200 personnes ont été blessées, selon eux, dont une vingtaine gravement, avec toujours une personne en urgence absolue ce matin. Et ce qui est frappant, c'est que, selon les organisateurs, ce bilan est le résultat direct d'une volonté des forces de l'ordre d'empêcher les secours de se rendre sur les lieux de la manifestation. Écoutez, Nicolas Géraud, il est porte-parole de la conférence paysanne.
Le SMUR a été empêché d'arriver par un ordre de la gendarmerie. Donc on est totalement dans une entrave à l'arrivée des soins. On est dans une logique de non-assistance à personne en danger.
Nicolas Géraud, qui est donc porte-parole de la Confédération paysanne, et durant cette conférence de presse, aucun des organisateurs n'a fait mention des policiers blessés ni des pétards et cocktails Molotov envoyés sur les forces de l'ordre. Pour ce qui est de la suite du programme, aucune nouvelle manifestation ou action n'est officiellement prévue dans les jours et semaines à venir. Le combat va se faire maintenant devant la justice et auprès des élus, m'a confié l'un des représentants du collectif Bassine Non Merci. Pour l'heure, ici, sur la commune de Mel, un grand nombre de manifestants sont déjà partis. La fin du rassemblement est prévue pour ce soir.
Guillaume Dominguez dans les Deux-Sèvres pour Europe 1. Évidemment, ces affrontements hier ont fait beaucoup de réactions politiques. Écoutez celle d'Éric Zemmour, invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
Moi, je pense qu'effectivement, ce sont, oui, on peut dire factieux, on peut dire nervis, on peut dire canailles, pour reprendre un terme voltairien. Je pense qu'ils n'ont rien à faire dans un pays démocratique et qu'il faut absolument les réprimer, mais sévèrement.
Éric Zemmour, invité ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Il est 1h moins le quart sur Europe 1. Vous restez avec nous. L'actualité, on va s'y intéresser avec ce gendarme du GIGN qui a été abattu en Guyane en pleine opération contre l'orpaillage illégal. Retour sur cette lutte sans merci entre les autorités et ses chercheurs d'or dans un instant. A tout de suite.
Europe 1 midi week-end.
Lénaïque Monnier.
Il est midi 47. Bienvenue sur Europe 1. On va s'intéresser à présent à ce trafic d'or en Guyane qui a fait une victime dans les rangs du GIGN. Il s'agit d'un gendarme de 35 ans tombé sous les balles de ses chercheurs d'or lors d'une opération contre l'orpaillage illégal. Un fléau qui gangrène ce territoire, Thibaut Hue, et contre lequel les autorités françaises luttent depuis de longues années.
Oui, parce que l'orpaillage est un trafic massif en Guyane. 10 tonnes d'or sont extraites illégalement chaque année par près de 6000 mineurs clandestins. Et ce n'est pas la première fois que ce type d'opération termine mal. En 2012, déjà 2 militaires avaient été tués et 2 gendarmes grièvement blessés par des chercheurs d'or. Déjà sur le site de Dorlin, en plein cœur de la forêt vierge, là où ce membre du GIGN a perdu la vie hier. Des opérations toujours très dangereuses, explique Christian Proutot, fondateur et premier commandant du GIGN.
Les orpailleurs sont prêts à toute violence parce que chaque fois qu'ils se font arrêter, ils se font prendre le matériel, parce qu'il y a effectivement pas mal d'or. Compte tenu de la misère qu'il y a dans le Suriname, dans les pays frontaliers, ils sont prêts à n'importe quoi. Donc c'est pour ça que les unités de type GIGN sont préparées à ce type de mission, à la possibilité d'avoir en face d'eux des gens déterminés, prêts à utiliser leurs armes.
L'année dernière, les autorités françaises ont mené plus de 1000 patrouilles en forêt contre l'orpaillage illégal. Résultat, 59 kg de mercure, le métal utilisé pour l'extraction, et 5 kg d'or ont été saisis, selon la préfecture.
Les précisions de Thibaut Hue pour Europe 1. Vladimir Poutine annonce que Moscou va déployer des armes nucléaires tactiques aux portes de l'Union européenne sur le territoire de son allié, la Biélorussie, un pays à côté. Les États-Unis font cela depuis des décennies. Voilà ce que fait valoir le chef du Kremlin. Et puis aux États-Unis, au moins 25 morts. C'est un bilan provisoire. C'est le premier bilan des tornades qui ont traversé le Mississippi. Toits arrachés, voitures détruites. La région qui par ailleurs se prépare à de nouvelles intempéries aujourd'hui. Retour en France et ce chiffre, 13 millions, c'est le nombre de Français ne sachant pas bien utiliser un smartphone ou un ordinateur. Un vrai handicap dans notre monde ultra connecté. Nous montons ce midi à bord d'un camion itinérant qui parcourt les routes pour apprendre à utiliser un ordinateur à ceux qui en ont besoin, comme les personnes plus âgées. Reportage à Mulhouse de Mélina Fachin pour Europe 1.
Saisissez vos informations.
Alors, c'est quoi le petit problème ?
Dans ce grand camion bleu, installé sur un parking du centre-ville, quatre dames, âgées de 65 à 83 ans, ont pris place devant des ordinateurs portables. La mission de Marie-Thérèse cet après-midi.
J'essaie de me connecter à Doctolib. J'aimerais pouvoir faire toutes mes démarches en ligne, puisque maintenant c'est l'ordinateur qui est. Hein. Si on ne sait pas se servir, on est largué. Hein. Je suis obligée de m'y mettre. J'ai trouvé que l'initiative était formidable. En plus, c'est gratuit. Et puis, je pense que je vais apprendre beaucoup de choses.
Diana Patetif, animatrice dans le Digitruck, organise tous les jours, sauf le dimanche, des ateliers sur différents thèmes.
Comment utiliser une souris, comment utiliser un clavier, la base, jusqu'à comment utiliser France Connect, tout ce qui est arnaque.
Le Digitruck restera à Mulhouse encore une semaine, puis direction Remiremont, Épernay ou encore Verdun, aux quatre coins du Grand Est, jusqu'à cet été, avant de filer vers une autre région. Mulhouse, Mélina Fachin, Europe 1.
Autre chiffre déjà, près de 3 millions d'euros récoltés pour l'édition 2023 du SIDAction, dont Europe 1 est l'un des partenaires. La collecte continue évidemment tout le week-end pour l'association, avec notamment le 110 que vous pouvez contacter pour faire un don. Vous le savez, nous avons changé d'heure cette nuit, signe que le printemps est là et que les vacances arrivent, mais pas pour tout le monde. L'INSEE révèle qu'un enfant sur 10 ne part pas en vacances pour des raisons financières et il existe d'autres privations, Barthélémy Philippe. Certaines de ces privations sont d'ailleurs beaucoup plus courantes que d'autres.
Oui, un enfant sur 10 ne peut pas partir en vacances au moins une semaine par an. Ils sont encore plus nombreux à vivre dans des familles qui n'ont pas les moyens de payer toutes les factures à temps ou de remplacer les meubles hors d'usage. Valérie Alboui est responsable du département des ressources et des conditions de vie des ménages à l'INSEE.
Les parents essaient de préserver au maximum les conditions de vie de leurs enfants. Donc ils se privent davantage et ils se privent en priorité. Celles qui sont plus fréquentes, c'est finalement des privations qui concernent le ménage dans sa globalité. Les privations spécifiques aux enfants sont moins présentes que celles qui concernent l'ensemble du ménage.
Heureusement, les privations alimentaires sont rarissimes et l'immense majorité des enfants a au moins deux paires de chaussures, des vêtements neufs ainsi que des jeux et des livres.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Alors on l'a entendu, pas de vacances pour ces enfants, mais pourquoi pas un passage chez les scouts. En tout cas, ils ont le vent en poupe. Encadrement, apprentissage de la débrouille, de l'autonomie, solidarité, respect de la nature. Les scouts éclaireurs et éclaireuses de France ont par exemple doublé leur effectif en 2 ans. Nina Pavan a chaussé ses chaussures de rando avec le groupe Marseille Pagnol.
Sac de rando et tapis de sol de rigueur pour un week-end en forêt. Nil et Mathilde sont les plus âgées du groupe. Pour elles, le scoutisme,
c'est vraiment une partie de notre vie, quoi. Ça permet d'être un peu à part de la ville, de tout du train-train quotidien. Mais vous faites vraiment des amis à vie. Et
c'est la famille. Et puis oui, on va dire qu'on va plus s'entraider. Et puis aussi, on va avoir des valeurs communes alors qu'on vient pas tous des mêmes endroits.
Laïcité, écologie, entraide dans ce groupe, c'est souvent une affaire de famille. Frédéric en a fait partie. Aujourd'hui, il y a inscrit ses 2 enfants.
Pourquoi ? Je crois que c'est parce que nous, on l'a vécu jeune et on s'est dit que c'est l'école de la vie. Dans les écoles, il y a l'idée de devoir se débrouiller en étant juste à quelques-uns.
Le scoutisme laïque est très populaire, nous explique Akita, le chef éclé. Il est en train d'aider les plus petits à monter leur tente avant la nuit.
Là, ici, on est donc à une 60aine d'enfants et une quinzaine, vingtaine d'animateurs qui tournent un peu. On sent qu'il y a un engouement pour le scoutisme.
Le groupe Marseille Pagnol cherche de nouveaux bénévoles pour que tous les enfants encore sur liste d'attente puissent eux aussi devenir éclaireurs.
Le reportage de Nina Pavan à Marseille pour Europe 1. Il est midi 53, j'espère que vous commencez à digérer le passage à l'heure d'été. En tout cas, ne vous trompez pas d'horaire si vous voulez voir le 15 de France dans le tournoi des 6 nations. Car après les messieurs, eh bien c'est au tour des dames de jouer. Les Bleus affrontent à Parme les Italiennes cet après-midi. Depuis leur 3e place à la dernière Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, Axel May, l'engouement du public est bien là.
Oui, après une Coupe du Monde disputée aux antipodes, conclue par une médaille de bronze, mais surtout marquée par une frustrante demi-finale perdue et par des tensions avec l'ancien sélectionneur. Après cette Coupe du Monde contrastée donc, les Bleus entament un nouveau cycle et le tournoi des 6 nations va leur permettre de retrouver leur public, la talonneuse Agathe Socha.
Dans ce tournoi, on va basculer, on va voir de plus en plus l'engouement pour notre rugby. On s'en rend pas encore compte, on est en train de s'en rendre compte et c'est chouette, on est aussi bien porté effectivement par le 15 de France masculin qui fonctionne bien, donc si le rugby français va bien aujourd'hui, c'est chouette, et si les gens aiment nous suivre et nous regarder, c'est super, et on va essayer de continuer à leur donner envie.
Si les 2 premiers matchs du tournoi Destination auront lieu à l'extérieur, en Italie aujourd'hui et en Irlande samedi prochain, les matchs à domicile en avril devraient se tenir à guichet fermé, à Vannes face à l'Écosse et à Grenoble contre le Pays de Galles, en attendant sans doute un record mondial d'affluence pour du rugby féminin, puisqu'en clôture du tournoi, les Bleus joueront dans l'antre anglaise de Twickenham, où à 1 mois de l'événement, 40 000 billets se sont déjà écoulés.
Axel May du service des sports d'Europe 1 et le match débute à 16h. Vous avez également de la moto au programme 1 heure plus tôt, autrement dit à 15h. La saison a démarré ce week-end avec hier une épreuve aussi inédite que spectaculaire. Christopher Filloc, une épreuve de sprint qui a tenu toutes ses promesses.
Oui, la première course du Grand Prix du Portugal, une course sprint sur une dizaine de tours et qui a offert tout simplement du spectacle du premier jusqu'au dernier virage. Et c'est Francesco Bagnaia, le champion du monde en titre, qui s'est adjugé la victoire finale. Côté français, Johan Zarco a marqué ses premiers points de la saison avec une 8e place et il revient sur sa course au micro de Canal+.
Un bon moment de vérité, c'était vraiment bien. Je suis bien parti, j'étais bien au combat et plutôt content. La zone, là, elle était pas pour le podium, mais j'ai pris pas mal d'infos et c'est suffisant la montée en puissance que je souhaite avoir.
Bon, et par contre, journée compliquée hein, hier pour l'autre Français, Fabio Quartararo, remonté pourtant 10e malgré un accrochage. Il échoue à la porte des points et compte déjà 12 longueurs de retard sur Francesco Bagnaia avant la première course officielle qui aura lieu cet après-midi à 15h. Et pour cette course, c'est Marc Marquez qui partira en pole position avec l'espoir de signer la 60e victoire de sa carrière. Il s'élancera devant Bagnaia et Jorge Martin. Johann Zarco et Fabio Quartararo partiront respectivement 9 et 10e.
Christopher Filoc pour Europe 1. Et l'équipe de France de foot, elle, il faudra attendre demain pour la voir jouer. Elle s'est envolée ce matin pour Dublin, lieu du 10e match de qualification à l'Euro. Des Français qui arrivent sereins après leur victoire contre les Pays-Bas, portés d'un par leur nouveau capitaine, Kylian Mbappé, mais aussi, Cyril de la Morinerie, par leur nouveau gardien, Mike Maignan.
Oui, tous les joueurs sont venus l'enlacer pour le féliciter. Mike Maignan a repoussé dans le temps additionnel un pénalty de la star néerlandaise Memphis Depay. Sous le regard de son prédécesseur Hugo Lloris en tribune et de ses coéquipiers, notamment Aurélien Tchouaméni, nullement surpris par son arrêt réflexe.
Honnêtement, ouais, on était sur le banc, on s'est dit que voilà, c'était son moment. On sait qu'il est performant dans cet exercice-là et il nous l'a montré encore aujourd'hui.
Et pour sa 6e sélection, le gardien de 27 ans a en effet confirmé sa réputation. C'est le 12e pénalty arrêté dans sa carrière. Des débuts parfaits comme titulaire en bleu, confirme le sélectionneur Didier Deschamps à Jean-François Pérez.
C'est pas évident pour lui quand même de remplacer Hugo avec tout ce qu'il a pu faire et très bien faire. Mais Mike a vraiment tout pour prendre le relais.
Le gardien formé au PSG, révélé à Lille et désormais au Milan AC, est parti pour s'installer dans la durée, dans les buts français.
Cyril de la Morinerie, on termine avec la France qui est passée à tout près d'un nouveau record du monde. Le pays des Schtroumpfs aurait dû être Landerneau dans le Finistère hier, tout était prêt, mais voilà, le compte des petits hommes bleus n'y était pas. Il en a manqué une grosse centaine pour faire tomber le record de Schtroumpfs. Explication des organisateurs, la pluie qui en aurait découragé certains. Et justement, on en vient à la météo avec vous Valérie Darmon et cette forte perturbation qui effectivement traverse la France d'ouest en est.
Effectivement, je le dis depuis ce matin et même d'hier avec d'une part beaucoup de pluie et d'autre part beaucoup de vent, notamment en Aquitaine où des rafales à 80 jusqu'à 100 km/h sont attendues, 100 à 110 sur les côtes. 80 à 90 dans les terres, dans les heures à venir, en soirée et dans la nuit de dimanche à lundi. Ce vent qui va frapper la Côte d'Azur, la Corse et les reliefs cévenols. Des rafales à 80 km/h sont attendues en même temps que la pluie arrivera sur ces régions, sauf en bord de mer et partout ailleurs, sur tout le territoire. Les rafales vont avoisiner les 60 km/h sous des pluies battantes, soutenues ou orageuses, du Limousin à l'Alsace. Actuellement, il pleut toujours en Bretagne, et petit à petit, ces pluies vont traverser la France pour aller rejoindre la façade est. Tempête de neige aussi annoncée d'ailleurs sur les Alpes, donc prudence, on y attend jusqu'à 50 cm de neige fraîche. Tout cela bien évidemment sous des températures dans ce contexte en baisse, avec une fourchette pour les maximales dans les heures les plus chaudes à venir, si je puis dire, entre 10 à Lille et encore 22 degrés à Nice.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet qui reçoit aujourd'hui l'auteur Olivier Babot. Ce sera juste après le flash dans un instant, à tout de suite.